avec Richard Martineau et Élisa Cloutier.
Radio X.
Élisa, c'est le fun d'animer ce show-là parce qu'il y a plein de commentaires puis ça m'allume et ça fait avancer ma réflexion. Dans le fond, j'anime ce show-là rien que pour être moins niaiseux le soir quand je me couche. Ben, c'est la seule raison. C'est déjà ça. Alors, il y a un ami Facebook, Christian Lucier, qui vient de m'écrire. C'est très bon puis j'aimerais avoir ta réaction là-dessus, Élisa. L'émission Piment Fort a eu la peau de la chanteuse Kathleen, puis se trouvait bien drôle dans leurs droits, puis assumait tout ce qu'il disait sur cette émission-là sur elle. Elle chante encore de nos jours, mais à très petite échelle. Sa grande carrière a arrêté d'évoluer complètement. Ils ont tué sa carrière, tout ça au nom de l'humour. Un humoriste devrait être responsable de la mèche qu'il allume de par ses jokes à travers la province. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
Ben, si, en fait, je peux pas te dire, oui, j'ai un souvenir de ça, mais tu sais, j'ai pas écouté toutes les émissions
ouais,
de
ben non, t'étais jeune. Mais Kathleen, c'est-tu les gangs qui ont tué la carrière de Kathleen ou c'est ces chansons qui étaient pas bonnes aussi? Ça, c'est une autre affaire
c'est
aussi.
C'est probablement les deux, mais est-ce que c'était de l'acharnement? Tu sais, quand ça devient de l'acharnement, est-ce que c'est de l'intimidation? Est-ce que ça, c'est permis au nom de
Piment Fort, régulièrement, on riait de la lesbienne acadienne. On riait tout le temps de la lesbienne d'Acadie, puis on sait c'est qui, une chanteuse en Acadie qui est gay, qui est lesbienne, puis il revenait tout le temps dans Membratoire puis ça gagne la lesbienne d'Acadie. Puis c'était comme un running gang. Là ça devient puis effectivement c'était de l'acharnement dans le cas de Kathleen. Totalement. Est-ce que c'est eux autres qui ont eu la peau de sa carrière, c'est une autre affaire, mais c'est sûr que ça a pas aidé, c'est sûr qu'à un moment donné tu voyais Kathleen à la TV puis elle chantait. Même si peut-être sa toune avait de l'allure, t'avais rien que les jokes de Piment Fort, puis tu partais à rire, puis tout ça. Puis à un moment donné, les gens voulaient plus mettre Kathleen en onde parce que ça devenait comme une joke.
C'est ça.
Puis là, ça a comme fini sa carrière ben reine à cause d'humoristes.
Ben, ça rentre dans la case acharnement, puis acharnement puis intimidation.
Ouais, mais acharnement, c'est quoi? Elle met dans une loi, tu dis après 5 jokes dans un mois. Quand ça fait un mois, tu fais 5 jokes. C'est comment t'écris ça dans la loi?
Il y a pas
là?
De loi. C'est le
comment
le
tu peux encadrer
bon
ça?
C'est ça.
Hey, c'est ça, tu peux pas mettre de loi là-dedans.
La seule façon, c'est de poursuivre, puis les tribunaux vont décider du reste de l'affaire. Mais comme tu l'as dit, ça prend du temps, ça prend de l'argent. Puis c'est pas tout le monde qui veut s'impliquer là-dedans dans une cause, là, puis de poursuivre quelqu'un.
Après 4 shows, si tu vises la même personne, t'as pas le droit maintenant. Ça va prendre 1 an avant que tu refasses un gang sur cette personne-là. Tu veux dire, dans la loi, c'est impossible. Nous allons maintenant parler...
Juste avant, une petite mini-parenthèse.
Oui, donc, vas-y
donc. Au cours des dernières minutes, que Mike Ward, finalement, n'ira pas au Gala des Oliviers dimanche. Guy Nantel avait aussi dit qu'il ne serait pas du gala, donc les deux n'iront pas, finalement.
Ah oui, les deux vont boycotter.
Et Guy Nantel et Mike Ward vont aller enregistrer leur numéro au Comedy Club Le Bordel à Montréal. Puis dimanche, ils vont le mettre en ligne sur YouTube pendant la diffusion du gala à Radio-Canada.
OK. Ça, c'est une autre affaire aussi. Avec... Ben ça montre aussi les limites de la censure entre guillemets.
Internet.
Maintenant avec YouTube, avec Internet, ils vont mettre ça sur Internet, puis tout le monde va aller voir ça, tout le monde va aller regarder ça, puis là ils vont avoir des codes d'écoute qui vont être peut-être plus élevés encore que les codes d'écoute du gala. Fait que tu sais, même la notion même de censure à l'ère d'Internet ne tient quasiment plus.
Ben les recettes pompettes en France.
Ben oui, exactement. Ah, vous voulez pas mettre ça en onde? Ben on va le mettre sur Internet nous autres.
Exact.
Tout à fait. Eh ben, ils seront pas là. Bon, on va regarder, tout le monde va regarder ça, leur show, leur joke sur Internet. Nous parlons maintenant des food trucks avec le chercheur Vincent Geloso. Ça sent l'été, ça sent les gougounes, puis la sauce piquante, puis les piments. Hein? Ça, c'est la chanson thème du film Chef, un film justement sur les food trucks qui a été réalisé par Jon Favreau, celui-même qui vient de faire l'adaptation géniale du Livre de la jungle. C'est écœurant, le Livre de la jungle, en vrai, c'est génial. Alors, il avait fait un petit film avant qui s'appelait Chef sur un gars qui a un food truck. Oui, il est là.
C'était un Voyons, j'ai de la misère avec le mot sujet, moi, aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe. Je suis pas saoule pantoute, mais je suis pas capable de dire le mot sujet. C'est un sujet chaud à Québec, les food trucks. D'ailleurs, on va parler à Denis aussi Gravel au cours des prochaines minutes, qui est au marché public de Lévis pour le gros événement food truck de Choix Radio X jusqu'à 20h ce soir. Mais à Québec, il y a pas encore de food truck, puis on en voudrait, puis on se rappelle au début de l'été, ou cet hiver, le maire Labeaume qui disait non, finalement, ça intéresse personne. Pétition d'à peu près 5000 noms pour en faveur des food trucks. Finalement, on va revenir, on va regarder, on va peut-être avoir un projet pilote, pas cet été, mais l'été suivant. On écoute les commentaires de Régis Labeaume.
Je pense pas qu'il va y avoir des food trucks cet été-là. Mais il me semble qu'on a dit la même affaire qu'on disait l'année passée, qu'on surveillait à Montréal. Si les gens veulent s'acheter des trucks, ils font bien ce qu'ils voudront, là. Et nous autres, on fait ce qu'on a dit.
OK. Donc, c'est écarté pour cet été, puis...
Oh, oui. Des demandes de food trucks, ça m'est jamais arrivé, moi, à ville, là. Il n'y a pas un citoyen qui m'a demandé il va y avoir des food trucks, là. J'ai beaucoup lu ça dans la presse, madame. Les gens se répondent dans la presse, ça. Tu fais déjà, hein? Quelqu'un qui parle un sujet, puis l'autre, il répond. Puis, à un moment donné, tu t'aperçois, tu penses que c'est tout le monde parle de ça en ville. Je t'aperçois que personne n'en parle, excepté la presse se parle. Il n'y a pas de citoyen, moi, qui me demande des food trucks, là. C'est parce que c'est un sujet pour moi qui n'existe pas comme maire, là.
Il n'y en aura pas l'été prochain, mais probablement l'autre été. Alors, Julie travaille avec l'Association des restaurateurs. On va se voir tout le monde ensemble, puis les food trucks, c'est incontournable. On sait tout ça.
Ah, on a vu le changement.
C'est très bon.
On a vu le changement de cap, là.
On appelle ça volte-face, hein, Lisa?
Oui.
Et pour ton truc sujet, là, c'est parce que ta mâchoire, elle sait qu'on est le vendredi.
Ça
habituellement,
ça, hein?
Le vendredi, mais elle se trompe d'heure. C'est ce soir que je vais parler de même.
Mais non.
Ce soir, je vais parler comme ça.
Parce qu'après l'émission, je m'en vais à Lévis.
OK. Alors, nous allons parler avec Vincent Geloso, chercheur associé à l'Institut économique de Montréal, qu'il vient de publier et co-auteur d'un texte « Libéralisons les camions restaurants à Montréal, mais aussi à Québec ». Vincent, t'es avec nous. Salut, Vincent.
Bonjour, Richard.
Bonjour. Premièrement, Vincent, on s'est parlé il y a quelques jours sur Uber, je crois. Et là, finalement, le couperet est tombé. J'aimerais t'entendre, avant qu'on parle de food truck, j'aimerais t'entendre sur la décision du gouvernement concernant Uber.
Ben écoute, c'est une décision qui aurait eu sa place à la fin du 18e siècle avec les carrioles qui sont généralement défendues ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le véritable problème, ça a toujours été la même chose, c'est le système des permis. Et nulle part dans la discussion, je pense que le ministre a voulu considérer la possibilité de trouver une manière de compenser les licences des chauffeurs afin de libéraliser l'industrie. Donc, que ce soit des congés d'impôts, des remboursements partiels, des taxes temporaires, un remboursement complet, des options sur plusieurs années, émettre une dette temporaire, une dette des bons du Trésor. Il y avait 1000 options sur la table. Le ministre n'a pas voulu les considérer. Le ministre a décidé que lui et la Commission des transports savaient mieux qu'est-ce que les consommateurs avaient besoin comme service.
Ben oui, il y avait alors même que, un comité. Il y avait même Vincent. Vincent, il y avait un comité de fonctionnaires aussi qui avait émis toutes sortes de recommandations puis de possibilités. Puis toi aussi, tu avais écrit justement une publication là-dessus sur Uber avec toutes sortes de pistes possibles
de
faits, mais c'est comme il a écarté ça du revers de la main. C'est trop compliqué. C'est trop facile de dire ben là, vous allez devoir acheter un permis puis louer un permis puis là-dessus.
Peut-être que dans la discussion, on va pouvoir remettre de l'avant d'autres possibilités sur comment est-ce qu'on peut passer à un système qui a plus de flexibilité pour tout le monde. C'est pas encore fini, on peut en parler encore.
Mais là, on va parler des food trucks. Alors, quel est le résultat de ta réflexion, Vincent, sur les food trucks?
Que libéraliser les food trucks, ça serait la meilleure chose pour Québec depuis que le but d'Alain Côté a été refusé. qu'il y a des gains importants pour les consommateurs. Quand on regarde dans les villes où ça a été libéralisé, il y a une offre considérable qui est faite. Quand on regarde, par exemple, avec les études qui ont été faites à Chicago, qu'un cadre réglementaire aussi rigide que celui de Montréal, puis il faut comprendre que le cadre de Montréal est très rigide. Il y a un comité d'experts qui vote sur qui a le droit de rentrer dans l'industrie, puis il y a trois des membres du comité de 5 personnes qui sont des membres de l'industrie. Il y a des restrictions sur le nombre de permis qu'il peut avoir. Donc, il y a juste 57 permis maximum à Montréal. Donc, un paquet de restrictions. Et des gens qui ont étudié la ville de Chicago, qui a les mêmes restrictions que Montréal à toute fin pratique, on réalise que si on libéralisait, qu'on laissait l'entrée plus libre, qu'on enlevait les restrictions, il y a des gains importants pour les consommateurs.
Vincent, toi, c'est ce que tu conseillerais, mettons, à Régis Labeaume, de dire oui, accepter les food trucks, mais pas besoin de mettre de quotas, là, pas besoin de mettre un nombre limité.
Exactement. Comme l'exemple de Montréal devrait pas être à suivre sur ce cas-ci, Montréal a mis des permis. Donc, t'as pas le droit d'avoir plus que 57 permis total sur un nombre de sites limité. Donc, t'as pas le droit de vendre où tu veux. Y a énormément de restrictions. Puis en plus, c'est un comité établi par la ville qui vote. Donc, nous, on dit c'est un système comme ça, ça restreint la concurrence, ça restreint l'entrepreneuriat. Ça serait mieux d'aller avec un système simple de réglementation où les gens paye un frais fixe très, très bas pour acheter une licence. Puis, il n'y a pas de restriction sur le nombre de licences qui peuvent circuler. Et ensuite, les gens se plient à des inspections aléatoires pour la salubrité.
Mais quand même, ça prend aussi des règlements pour les restaurateurs qui sont déjà en place. Exemple, un périmètre quand même à respecter, non? Si jamais, tu sais, si on installe des food trucks juste à côté de la porte d'un restaurant, j'imagine que le restaurateur sera pas super content non plus.
Ben, premièrement, je pense qu'il faut qu'on comprenne que la concurrence est toujours mieux pour le consommateur. Et je comprends par contre les restaurateurs d'être fâchés à l'idée de libéraliser parce qu'on les étouffe tellement avec un cadre réglementaire et fiscal gigantesque que ouvrir à la concurrence, ça peut leur faire mal. Mais même si c'est débattable cette affirmation-là, la solution c'est pas d'interdire la concurrence venant des food trucks, c'est d'enlever la réglementation et la taxation qui empêche les restaurateurs qui ont pignon sur rue de pouvoir faire concurrence, de pouvoir attirer des clients additionnels. Donc, la solution de niveler vers le bas en interdisant à certaines personnes, c'est pas une bonne idée. Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est beaucoup mieux de niveler tout le monde vers le haut en augmentant le terrain de compétition pour tout le monde au lieu de faire une politique comme celle qui est une interdiction across the board.
Et Vincent, si je me base sur mon expérience des food trucks, là, parce que les restaurateurs disent, si tu vas dans un food truck, tu viendras pas au restaurant. Mais les fois où je suis allé manger dans un food truck, ça me tentait pas d'aller dans un restaurant, justement. Ça me tentait pas de m'asseoir, puis d'avoir un long service, puis d'être à la même place.
C'est ça, des fois, t'es pressé, mais tu sais,
à un moment donné, t'es pressé.
Sandwich,
c'est ça, je serais pas allé dans un restaurant. Je me serais pogné un sandwich d'un dépanneur. Mais là, je peux aller dans un food truck, tant mieux. En fait, c'est le dépanneur qui est plus menacé par le food truck, pas le restaurant.
Ben justement, quand je disais il y a deux secondes qu'on peut questionner l'idée que ça va vraiment cannibaliser la clientèle des restaurants, que la meilleure chose, c'est de laisser le plus d'espace possible aux restaurants de pouvoir faire concurrence en déréglementant le plus possible pour eux aussi. Mais quand on regarde aussi, c'est qui les clients des food trucks? C'est généralement des gens qui n'auraient pas été au restaurant à point. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils attirent des consommateurs qui n'étaient juste pas là avant. Donc, ils créent un nouveau marché et donc attirent des gens qui n'auraient juste pas été au restaurant naturellement. Et même des fois, il y a des effets positifs sur les restaurants parce que les consommateurs sont attirés dans un certain quartier. Il y a un effet de dynamisation du quartier et le bénéfice est qu'avec le quartier qui est plus dynamique, il y a une augmentation de l'achalandage dans les restaurants aussi.
Tu sais, je vais te raconter un vieux gag, Vincent. C'est un gars qui a une jambe de bois. Il rentre dans une église puis il dit « Mon Dieu, rendez ma jambe semblable à l'autre » puis il sort avec deux jambes de bois. Le gars, ce qu'il voulait, c'est que sa jambe de bois devienne une vraie jambe. Mais au contraire, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est sa vraie jambe qui est devenue une jambe de bois. Je raconte ce gag-là parce que, mettons, concernant Uber et le taxi, au lieu de dire « Hey, on va rendre le taxi aussi souple qu'Uber », on a dit « Non, on va rendre Uber aussi rigide que le taxi ». Fait qu'on donne deux jambes de bois au lieu d'avoir deux jambes normales, tu comprends-tu? C'est ça l'affaire, le problème. Et la même chose avec les food trucks et les restaurants. Au lieu de dire, on va aider les restaurants pour qu'ils deviennent aussi souples que les food trucks et qu'ils puissent entrer en compétition plus facilement et avoir des clients plus facilement, non, on va rendre les food trucks avec une telle réglementation que ça va être aussi difficile que les restos.
Absolument. Écoute, j'aurais aimé ça pouvoir sortir l'analogie que tu viens de faire, parce qu'elle est d'un efficace incroyable pour expliquer le point de vue que l'Institut essaie d'avancer. C'est celui que c'est mieux que là, on donne deux jambes au lieu de deux jambes de bois aux gens pour faire concurrence. Puis ça se fait avec enlever les restrictions, pour dans le cas de Montréal, d'enlever les restrictions sur le nombre d'espaces dans lesquels c'est possible de travailler. À Montréal, il y a juste 7 arrondissements sur les 19 qui ont le droit d'avoir des food trucks. C'est ridicule comment c'est petit. Il y a un nombre maximal de permis. Nous, ce qu'on dit, c'est mettez un frais fixe. Au lieu de le mettre à 2 000 $, mettez-le à 500 $. Tout le monde peut s'inscrire en achetant le permis et après ça, ils doivent se soumettre à des inspections aléatoires de leur nourriture, de leur équipement pour voir si c'est propre. Mmh. Et après ça, s'ils violent le code de salubrité, ils payent une amende.
Mais Vincent, tout le monde qui nous écoute, là, on t'écoute, là, c'est le gros bon sens. Il me semble que pas besoin, tu sais, comment ça se fait qu'on se rend pas à ça? Comment ça se fait que les gouvernements ont si peur? Comment ça se fait que les gouvernements aiment tellement la réglementite aiguë? au lieu d'enlever des règlements puis de rendre le marché un peu plus souple? Je comprends pas.
J'aimerais ça avoir une réponse magique à ce que tu viens de dire. Malheureusement, il n'y en a pas. C'est pour ça que j'essaie d'expliquer. Peut-être qu'il y a juste une mauvaise compréhension des coûts de la chose. Puis une des mauvaises compréhensions, c'est souvent que les gens pensent que les food trucks sont très mal propres. Mais alors que quand on regarde en réalité dans les grandes villes américaines, puis on les a étudiées, où est-ce que il y a pas de restrictions à l'entrée, les food trucks sont plus propres que les restaurants, sont même dramatiquement plus propres que les restaurants. 80% des plaintes de salubrité contre eux autres sont mal fondées. Et il y a une raison fort simple, c'est que généralement, quand tu vas dans un food truck ou dans un food cart, tu vois la nourriture qui est préparée devant toi, tu vois les mains du serveur. Oui. Alors que dans des restaurants, c'est plus souvent. Donc, il y a un mécanisme d'autoréglementation.
Puis en même temps, le Vincent...
Le comportement des food trucks. Puis en plus, c'est plus comme si on était au milieu du 19e siècle parce qu'il n'y avait pas Internet. Maintenant, si vous avez un mauvais service, vous allez sur Yelp, puis c'est pas mal
ben
fini.
Oui. Ben oui, mais l'Internet, ça même pas c'est quoi. Le ministre Daou, il faudrait peut-être y montrer. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Merci Vincent. Est-ce que je le prononce comme faux, Geloso?
Oui, tu le dis bien.
Geloso, ok, merci beaucoup Vincent, salut.
C'est un plaisir.
C'est chercheur associé à l'Institut économique de Montréal. Hey, les deux expériences que j'ai eues absolument dégueulasses d'empoisonnement alimentaire, hein? C'était dans deux restaurants huppés. Deux restaurants, petits doigts dans les airs, là. Deux restos 4 étoiles, là. Malade toute la Christine nuit. Hein? Le lendemain, je retourne au restaurant vert, puis le propriétaire me regarde et dit « Oh boy, ça s'est pas bien passé, M. Martineau, hein? » Non, pas en tout. Il y en a un, c'est une ratatouille qui était comme passée date. Hein? Puis l'autre, c'était comme un plat de pâtes. C'était, voyons, des pâtes fourrées, là.
Raviolis,
passée date, ou c'est raviolis, oui, des raviolis qui étaient comme...
Puis est-ce qu'il t'avait offert quelque chose, ou qu'est-ce que...
Ben oui, genre un autre repas gratuit, mais tu sais, ouais, oui, ça me tente d'aller manger. D'abord. Ça me tente de manger. Hey, j'ai été malade une fois. As-tu vu Dom Morin?
Non.
Sur sa page Facebook.
Non, j'ai
il y a eu
vu.
Un empoisonnement alimentaire dans un avion.
Oh non.
Il a mangé de la bouffe d'avion, puis il a photographié sa bouffe d'avion. Un affaire dégueulasse, là. Et toute la nuit en avion, alors qu'il était censé, il était censé dormir, là. En tout cas, fallait qu'il y ait aux toilettes de l'avion.
Oh, c'est comme le pire cauchemar.
Déjà que c'est tough, là, dans un avion, mais un empoisonnement alimentaire dans un avion.
C'était toujours un
line-up.
Oh my God.
On a mouillé, c'est ça. Ben, il fait comme Gérard Depardieu, il se soulage dans l'allée. Hein,
ben
Gérard Depardieu avait fait ça, il avait pissé dans une bouteille.
Ben oui.
Ben, c'était Gérard.
J'ai oublié ça.
C'était le gros Gérard. On l'aime bien, Gégé. Alors, on s'en va tout de suite à la pause, le temps de cacher les enfants parce que c'est la chire à Gravel tout de suite après. Vous écoutez Martino à Choix Radio X au 98.1.
Martino,
c'est mon idole.
Ah, il est très, très bon.
Radio X.
La fin de semaine, on décroche avec des légendes du rock. En fin de semaine, dans Légendes du rock, au signal de ton Guy Massé. Appelle pour gagner 2 abonnements de 3 mois chez Maxiform Fitness.
Awesome, thank you.
Légende du rock, samedi et dimanche, 10h.
Radio X.
Une présentation de Maxiform qui vous invite à profiter de la super promo estivale. Abonnement de 3 mois pour seulement $129.99. Maxiform.